Bien, ça fait toujours plaisir d'être de retour à l'Église de la Trinité ici à Montréal. Je vous inviterai tout de suite à ouvrir vos Bibles à l'Évangile de Jean, chapitre 15. Ce matin, nous allons voir un des « Je suis » de Jésus. C'est probablement celle qui demande le plus de ceux qui l'entendent, qui nous exhorte également. C'est à la fois encourageant et édifiant. Le nom de ce message, c'est Jésus, le cep qui transforme. Je vous inviterai à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu. Jean 15, versets 1 à 17. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'aime, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma gloire soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous ayez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Cela conclut la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, tu es notre merveilleux sauveur, notre souverain sacrificateur. Tu nous as sauvés pour produire des fruits, des œuvres qui honorent et glorifient ton nom. Sanctifie-nous par ta parole, afin que nous puissions t'aimer davantage et nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Bénis la prédication de ta parole. Amen. Je vous invite à prendre votre place. Imaginez que vous connaissez le jour de votre mort. Que ferez-vous? Que ferez-vous avec vos dernières heures? Avec qui est-ce que vous les passeriez? Ce serait quoi même vos dernières paroles? Pour la grande majorité d'entre nous, c'est assez théorique. On n'a pas vraiment accès à cette information. Par contre, ce n'est pas le cas pour Jésus. Lui, c'est exactement au minute près qu'il va mourir. Et on sait même avec qui il a passé ses dernières heures. Et c'est effectivement avec ses disciples. Et il leur a adressé ses paroles, en tant que ses dernières paroles, c'est un dernier enseignement. Les chapitres 13 et 14, il offre un réconfort à ses disciples. Mais ici, au début du verset 15, chapitre 15, il change un peu de ton, il change un peu de rythme. Et là, il se préoccupe de la manière qu'il se comporte. Pourquoi? Parce que c'est ses disciples qui vont être de ses représentants quand il est parti. Il se préoccupe particulièrement de leur comportement parce qu'il sait que le monde va les haïr. Et le comportement chrétien est impératif à Jésus. Nous devons marcher d'une manière digne du nom que nous portons parce que le monde nous regarde. La sainteté chrétienne est quelque chose de très important. La manière dont nous agissons est centrale, est au cœur de la vie chrétienne. Et Jésus utilise ses dernières paroles pour rappeler de ses disciples de ces vérités. Parce qu'avant d'être de ses disciples, nous aussi, on était morts dans nos péchés. On était rebelles à la parole de Dieu, suivant tous les désirs de nos cœurs, et ultimement en portant aucun fruit agréable à notre Dieu. Et comme Jésus dit au verset 16, « Il a choisi ses disciples pour les transformer par l'Évangile. » C'est lui qui régénère de ses disciples pour les faire ultimement des œuvres d'or qui seront ultimement en mesure de porter des fruits qui sont agréables à Dieu et qui glorifient Dieu. Dans notre état de péché, ce n'était pas du tout le cas. Mais par la régénération, nous possédons maintenant la capacité d'obéir au commandement de Dieu. Mais ultimement, par la puissance de l'Esprit qui travaille au travers de l'Évangile qui nous transforme. Nous avons été transformés, transférés même de la mort jusqu'à la vie par l'Évangile. Et cette nouvelle vie se manifeste par des transformations intérieures, principalement par l'amour que nous portons autant pour Dieu que pour tous les hommes. Et cela, c'est la marque infaillible du chrétien. L'amour que nous avons. Jésus nous a dit qu'on peut les connaître par leurs fruits. Et cette parabole qu'il donne, ça traite principalement cela, la sanctification des chrétiens. Ou autrement dit, la transformation progressive que l'Évangile œuvre dans nos cœurs. L'amour que nous avons est une sorte, quelque chose qui doit être nourri et entretenu tout au travers de la vie chrétienne et l'Esprit qui travaille en nous. Jusqu'à ce qu'au point qu'on va être transformé en image de notre Sauveur. Par contre, ce passage contient plusieurs avertissements qui devraient servir comme une alarme brusque le matin qui nous réveille à notre vocation. Pour qu'on puisse commencer à faire ce que le Seigneur nous commande ultimement de faire. La parabole ne décrit pas comment les branches mortes peuvent revenir à la vie, ni comment les branches vivantes peuvent mourir. Ce n'est pas vraiment ça le but du parabole. Mais comment déterminer ultimement qu'est-ce qu'une branche en vie et qu'est-ce qu'une branche morte. Et comment produire plus de fruits pour les branches qui sont en vie. L'Évangile, elle est suffisamment puissante pour nous sauver de la mort. Et elle est également suffisamment puissante pour nous transformer, pour qu'on soit en mesure de porter des fruits. Et ces transformations qui s'opèrent tout au long de la vie chrétienne. Et mes quatre points ce matin décrivent cette transformation que l'Esprit œuvre dans nous. Le point numéro un, Jésus transforme son peuple en demeurant en eux. Et c'est ça le fondement de tout. Nous ne pouvons rien faire si on ne demeure pas connecté à Christ. Ce qui nous amène à le deuxième point. Jésus transforme son peuple en le nourrissant de sa parole. Parce que lorsque nous sommes connectés, il nous donne la vie, l'eau de la vie pour nous garder en vie et nous sanctifier, nous transformer. Et cela permet qu'on produise des fruits qui sont bons, qui sont mûrs. Et la troisième point, Jésus transforme son peuple en les émondant. Le processus qu'on aime un peu moins. Parce que lorsque les branches poussent, on a des petites mini-branches qui poussent tout partout, qui doivent être coupées pour ultimement produire plus de fruits dans les branches et pour la bonne santé des branches. Ce qui amène à la dernière. Jésus transforme son peuple pour produire des fruits. C'est cela l'aboutissement, le but même qu'on soit sauvé, qu'on apporte des fruits à la gloire de notre Dieu. Il y a ici toute la structure. Ces quatre points fonctionnent ensemble, à l'unisson, pour la gloire de notre Dieu. Christ, il est le vigne qui soutient et donne la vie à toutes de ses branches. Et c'est le Père qui prend soin des branches de manière extérieure. Et tout cela afin que les branches produisent du fruit. Mais c'est ultimement la vigne et le vigneron qui produisent les fruits et non pas les branches elles-mêmes. Nous, les branches, nous sommes que l'outil au travers lequel le Seigneur s'en sert pour produire de ses fruits. Chacun de ces éléments fonctionne ensemble et ça nous prend tous pour ultimement produire ses fruits pour la gloire de notre Dieu. Les gens ils demandent sans cesse s'ils doivent changer pour devenir chrétiens. Et la réponse est simple. Vous pouvez venir tel que vous êtes, sans changement, sans condition, pour venir à la pied du croix. Par contre, vous ne resterez pas pareil. Vous ne demeurerez pas dans vos péchés comme avant. Par Christ, l'Évangile nous transforme et nous rendent agréables, pour qu'on puisse porter du fruit qui soit agréable à notre Dieu. Ce n'est pas juste un style de vie, mais c'est véritablement une nouvelle vie que nous vivons à travers l'Évangile. Donc, commençons par le premier aspect, le plus fondamental, de demeurer attaché à la vigne. Et c'est ça l'idée essentielle. Pour qu'une branche puisse recevoir de quoi de la vigne, il faut qu'elle soit attachée. La vigne ne peut pas donner de ses nutriments à quelque chose avec laquelle il n'est pas attaché. Et sur cela, Jésus s'appuie sur l'union spirituelle que nous voyons tout au travers le Nouveau Testament. Le fait que nous sommes en Christ et il est en nous. On voit ça clairement au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, ici, Jésus est en train de définir les rôles respectifs au début. Le mot « demeurer » est un mot clé et central à ce passage. Et en grec, c'est le mot « meno ». Et cela signifie de rester en place, de ne pas bouger, de ne pas s'en aller, ou même appuyer. C'est que Christ demeure en nous par son Saint-Esprit. Le Nouveau Testament utilise l'image que les chrétiens sont comme le nouveau temple, le nouveau demeure du Saint-Esprit. Il est en nous et nous transforme lorsqu'il demeure en nous. Il fait cela jusqu'au point qu'on puisse lui obéir. Cela indique que nous ne demeurons pas passifs nécessairement dans la vie chrétienne, mais nous sommes appelés à participer à ce processus de sanctification. Que Dieu produise les fruits au travers de nous. C'est lui qui le fait ultimement, mais c'est nous qui le font ultimement. C'est nous qui font la persévérance au travers, toujours par la grâce de Dieu qui nous transforme. C'est nous qui devons rester attachés à lui, peu importe qu'est-ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce que nous restons attachés à la vigne? C'est très important, on la lit au verset 10. Nous le faisons par l'obéissance à ses commandements. Mais ce n'est pas du légalisme ici que j'en ai vous expliquer. Pas du tout le cas. Mais c'est une obéissance évangélique. Une obéissance hors de l'amour pour notre Dieu qui nous pousse, qui nous transforme pour obéir à la loi de Dieu. Exactement comme le texte dit. Les branches qui sont véritablement connectées à la vigne ne peuvent rien faire autre que produire des fruits. On peut dire que c'est une certitude mathématique, une nécessité certaine que nous produisons des fruits d'obéissance si nous demeurons connectés à Christ. Et c'est effectivement en produisant de ces fruits que nous allons montrer au monde autour de nous que nous sommes véritablement des chrétiens, que nous sommes véritablement des vrais disciples de Jésus. Pensez à un outil électrique. Si tu le tiens dans tes mains, tu peux faire semblant que ça coupe ou quelque chose, mais s'il n'est pas branché, elle ne va pas faire grand-chose. Et juste un poids mort, quasiment. Mais lorsqu'on le branche au courant, c'est là où l'outil va pouvoir faire exactement ce que l'opérateur veut faire, si c'est coupé ou quoi que ce soit. C'est comme ça la vie chrétienne avec Christ. Lorsque nous sommes branchés à lui, c'est là où que nous pouvons obéir à ce qu'il nous demande de faire. La branche qui est coupée, la branche qui n'est pas attachée à ce courant, peut faire aucun bienfait qu'on lui demande. Et c'est exactement comme ça que Jésus l'explique juste avant, chapitre 14, verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Parce que c'est plutôt un fait que Jésus est en train de relater que des conditions. Ses disciples vont garder sa parole. Il est certain de cela. Il continue avec le reste du verset avec les bienfaits qui en suivront. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le « nous » ici en question, c'est le Père et le Fils au travers de la présence du Saint-Esprit. Les chrétiens sont habités par le Saint-Esprit dès leur conversion. Et c'est au travers de cette présence du Saint-Esprit qui œuvre la transformation dans nos cœurs nécessaires. Et c'est ultimement une transformation qui remplit de la grâce de Dieu. Vous qui avez été sauvés de la mort éternelle par l'Esprit de Christ, comment est-ce que nous devons maintenant montrer notre gratitude à celui qui nous a sauvés? Allez-vous simplement ignorer toutes ces paroles, ignorer tout ce qu'il nous a dit, ou est-ce que vous allez réagir et par obéissance à ce qu'il nous dit? En Corinthiens 6, 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. L'appel, c'est d'agir comme des temples du Saint-Esprit et de glorifier notre Dieu par nos corps et par notre obéissance à lui. Car nous sommes maintenant la demeure du Saint-Esprit. Une demeure qui a été rachetée à un grand prix. Avant, nous étions des ennemis, des rebelles à la loi de Dieu. Et maintenant, comme on dit le verset 15, nous devenons les amis avec notre Dieu. Les rôles ont switché. Ennemi de Dieu, ami avec le monde, mais maintenant par Christ, ça switch. On est ami avec lui, ennemi du monde. Et c'est là que le commandement d'aimer le monde prend toute son importance. Dieu est défini par l'amour. Et le monde est défini par la haine ou par le mal. Mais en tant que les représentants de Dieu, nous ne rendons pas la violence ou la mal par encore plus de mal. Nous ne rendons pas la haine par la haine. Nous répondons par l'amour. Car nous sommes représentants de notre Dieu. Nous sommes représentants et les demeures de Dieu. Quand le monde nous frappe, on présente l'autre joue. Quand le monde nous dit de courir 1 kilomètre, on court 2. Quand il tire un parmi nous, est-ce qu'on répond avec la violence ou est-ce qu'on persiste dans l'amour pour le monde? C'est ça la vocation chrétienne. C'est ainsi que nous traitons nos ennemis. Et ce n'est pas une suggestion, mais c'est véritablement un commandement de notre Sauveur de répondre à nos ennemis avec l'amour, à ceux qui nous persécutent. Et c'est ça que ça veut dire d'être unis à notre Dieu. Et cette union est le fondement de la vie chrétienne. Sans elle, tout le reste, c'est la fausse religion. Si on n'est pas véritablement relié à Christ, c'est rien, c'est juste des actes extérieurs. Sans être véritablement uni à Christ, on ne peut pas porter de vrais fruits, des fruits qui sont agréables à Dieu. Et nous devons demeurer attachés à la vigne qui donne la vie à toutes de ses branches. Ce qui nous amène à mon deuxième point, la méthode que Christ utilise pour garder de ses branches en vie, la manière qui nous transforme. Et il fait cela par nous nourrissant de sa parole. Il transforme et préserve son peuple grâce à la nourriture de sa parole et de sa personne. Il est tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin d'autres sources de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, et il n'y en a pas d'autre. C'est lui seul. Il suffit à lui seul de nous garder en vie et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous ne nous soutenons pas. Nous ne nous nourrissons pas, mais nous tirons chaque goutte de la vie qui vient de la vigne qui est Christ, qui fortifie ses branches et fortifie son peuple. Et ce travail de transformation ne vise pas simplement de nous soutenir tel que nous êtes, mais il nous donne tout ce qui est nécessaire pour, dans la croissance de la vie chrétienne. Pour qu'on puisse être des chrétiens qui sont matures, pour porter des fruits qui sont mûrs et agréables à Dieu. Chaque année, si les vignes sont bien entretenues, elles vont encore produire des raisins. Et des raisins qui sont de plus en plus grands et de plus en plus sucrés à mesure que les racines s'enfoncent et que la vigne elle-même se mature. Et c'est une augmentation tranquille au travers de la vie chrétienne, cette croissance. C'est vrai que ça peut être difficile à certains moments, puis on peut tomber, ça peut descendre si on veut. Mais ultimement, il y a une trajectoire tranquillement verticale dans la croissance chrétienne, qui est toujours nourri par la parole de Dieu. Donc, je vous dis d'examiner la réalité spirituelle de vos vies. Est-ce que vous grandissez tranquillement dans les grâces, les fruits de l'esprit? Paul nous indique clairement c'est quoi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Grandissez-vous dans votre amour pour Dieu ou votre amour pour vos frères et sœurs? Grandissez-vous dans votre maîtrise de soi, dans votre patience, dans votre compréhension de la parole? Comme j'ai dit, on est tous imparfaits, on est tous pécheurs. Mais l'appel chrétien, c'est de poursuivre ces fruits de l'esprit pour une croissance spirituelle. Ça peut être difficile, c'est un chemin qui monte avec des roches. Mais nous avons Dieu qui est avec nous. Et par sa grâce, on peut y arriver. Où êtes-vous le plus stagnant dans votre vie chrétienne? Avez-vous cessé de grandir après plusieurs années dans certains éléments, certains fruits? Est-ce que votre amour pour Dieu devient un peu froid peut-être ou augmente pas? Vérifiez que vous êtes toujours connecté à la vigne. Que vous n'avez pas tombé à terre. On peut tous chuter de temps en temps. Mais à néanmoins cette tendance verticale. Les branches peuvent refroidir après des années d'inactivité. Sans activité, sans exercice, si on veut dire. On peut tomber. Mais on a un Dieu qui est là pour nous prendre, pour nous donner encore cette vie, pour qu'on puisse continuer dans notre croissance. Il prend soin de nous. Mais si votre vie est froide, votre vie spirituelle est froide, cela peut également être un signe que vous n'êtes pas du tout connecté. Une branche qui est coupée et qui tombe à terre peut sembler être en vie pendant une certaine période, mais éventuellement, elle va vraiment mourir. Et ça va être manifeste. Fait que je vous dis de s'assurer que vous êtes connectés pour vrai à la vigne. Mais si vous êtes froid, si vous êtes connecté mais froid, comment est-ce que vous vous réchauffez? Vous faites quoi maintenant pour vous réchauffer, vous rapprocher du feu? C'est comme ça que Christ nous garde en vie, par les moyens de grâce qu'il utilise pour édifier son Église et garder son peuple en vie. Il le fait au travers du ministère de la parole, les sacrements et la prière personnelle. C'est au travers ces moyens qu'une nouvelle vie puisse être insufflée dans vos branches. C'est comme ça que Christ le fait. Et ces moyens sont acheminés à l'Église pour ultimement distribuer au chacun de ses branches. Ça passe par le corps de Christ. Et c'est ça comme qui sert pour nourrir son peuple. Le chrétien solitaire, ça n'existe pas. Le chrétien qui va faire se nourrir ou se garder en vie de ses propres manières, il va rapidement mourir. Mais c'est en restant attaché que nous allons garder en vie. Et nous ne pouvons pas s'en aller. Hébreux 10 nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est le coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Restez attachés à l'Église locale. C'est la communion des saints qui est essentielle à la vie chrétienne. Une bûche qui est retirée du feu, elle va rapidement refroidir et éteindre. Mais si on la remet, elle va continuer à brûler. Et faire partie d'une église, faire partie des communions des saints, ça veut dire de faire partie de la vie de l'Église. La prédication, c'est le moyen par excellence, si on veut dire, que Dieu s'en sert. Et c'est là où il explique et applique la parole de Dieu à chacun des chrétiens. Et on trouve un certain réconfort, une énergie, et ultimement de l'édification qui vient au travers du ministère de la parole. La scène, le baptême sont d'autres moyens visibles de l'Évangile que Christ utilise pour garder son peuple en vie. La scène, c'est la communion visible, un élément qu'on peut voir pour nous rappeler de la sacrifice. Jésus dit en Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui vient à moi n'aurait jamais soif. » Si vous avez faim dans votre vie chrétienne, si vous avez soif dans votre vie, venez à Christ. Venez à sa table et prendre soin de tous tes besoins spirituels. Il vous gardera en vie. Et la prière, c'est la troisième moyen de grâce qu'il établit. Et cela, c'est une bénédiction spéciale. Et c'est un fruit important pour ceux qui sont attachés à la vigne, comme indique le verset 15. Si vous faites la survol de votre vie chrétienne au travers tous les nombres d'années, c'est quand que vous avez senti le plus en santé spirituellement? Quand je me suis posé la même question, j'ai réalisé que c'était lorsque j'avais un temps consacré chaque matin pour la lecture et pour la prière. Moi, je le faisais tôt le matin avant d'aller au travail. C'était une habitude très difficile à établir et de maintenir. Mais ultimement, ça vaut la peine. Ça vous gardera en vie. Avez-vous déjà ce temps? Pas nécessairement le matin, mais le soir, mais du temps consacré pour étudier la parole et prier. Sinon, peut-être que c'est le temps de réorganiser un peu vos priorités pour justement faire cela, pour vous garder votre cœur en feu pour le Seigneur, pour vous garder en vie. C'est comme ça qu'il le fait. Et c'est quelque chose qu'on peut se faire à tous les jours. Et voici alors comment Christ nourrit son peuple et tous les bienfaits qui découlent de cette connexion. Mais non seulement ces choses sont constructives à nos vies, Mais elle nous garde en vie et nous aide à grandir dans notre foi. Mais elle suffit à purifier également des éléments de nos vies qui ne devraient pas y être. Ces éléments détruisent les choses qui nous nuisent, qui nous empêchent, qui nous distraient de notre but. Ce qui nous amène à la troisième point que j'ai ce matin, la manière que Christ nous transforme. C'est en taillant les petits bourgeons qui poussent sur les branches, les bourgeons excédents. Pour un observateur extérieur, cela pourrait sembler un peu drastique. Si tu n'as jamais vu un vigneron qui coupe toutes ses branches, il y a quand même une grande masse qui se retrouve à terre. Il y a très peu de la vigne qui reste. C'est assez extraordinaire à quel point qui peut le faire sans que ça détruise une branche. Mais c'est une étape essentielle. Une étape qui doit être faite pour produire de plus de fruits. Si on enlève la grande majorité, ça sert au bien des branches. Elle sert pour concentrer toute l'énergie et tout l'effort des branches jusqu'à quelques petites branches pour la bien-être, pour plus de fruits qui sont agréables, que le vigneron désire. Et Christ, le Père est ce vigneron qui fait ce taillage. Et Christ est celui qui le garde en vie pour produire des fruits. Christ nous transforme de manière intérieure. Mais c'est le Père qui vient de l'extérieur qui t'aide à la transformation. Et le Père, il accomplit ce taillage de deux manières. On peut dire qu'il le fait d'une manière négative où il retranche les branches qui nuisent. Et de manière positive en nettoyant les branches qui sont présentes. Les branches qui sont saines. Mais en ce qui concerne l'enlèvement de ces branches, cette parabole est souvent le point de contention pour le chrétien de perdre son salut. Mais notre confession prend la position qu'on ne peut pas le perdre. Mais comment est-ce qu'on comprend cette parabole alors? La position qu'on ne peut pas perdre le salut, ça peut être examiné en deux manières, deux promesses que nous avons. La première promesse, c'est que nous arriverons à la fin pour être avec notre Seigneur. Dieu nous préservera jusqu'à la fin pour y arriver. Et la promesse également contraire, c'est de notre côté le commandement d'y parvenir. Ces deux éléments fonctionnent ensemble pour nous donner la doctrine de la préservation des saints. Et cela, ça donne une profonde assurance pour les chrétiens. Mais en même temps, elle n'est pas un permis pour faire tout ce dont nous voulons. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Nous avons quand même des commandements de notre Seigneur. Tout au long du Nouveau Testament, il existe plein de passages d'avertissement concernant la séparation que Dieu fait. La séparation du bon grain de l'ivraie. La séparation des boucs des brebis. Et bien sûr, ici en Jean 15, nous avons un excellent exemple d'une séparation que Dieu fait. Des branches qui produisent de fruits et des branches qui n'en produisent pas. Là, il faut clarifier un petit peu plus encore. Ce sont des passages d'avertissement et non pas de menace. Une menace est une déclaration ou une action indiquant l'intention de nuire ou de causer des dommages. Par contre, un avertissement est simplement une mise en garde concernant un danger ou un dommage potentiel. Cette distinction est très importante. C'est comme un panneau d'arrêt. Le panneau vous avertit qu'est-ce qui arrivera si vous n'arrêtez pas au stop. Elle ne cause pas l'accident que tu risques d'avoir si tu passes droit au travers, mais elle t'avertit des conséquences si tu continues. Et c'est exactement la même ici. Christ avertit son peuple qu'est-ce qui arrivera si nous passons droit au travers. Et voici les conséquences. Et cela, c'est une réveil pour les chrétiens de nous rappeler de notre devoir à Dieu. Pour qu'on ne soit pas comme les vierges qui ont manqué l'arrivée de l'époux. C'est de rester réveillé pour notre Dieu. Ce passage, particulièrement versets 2 et 6, sont remplis de commandements de rester attaché. Des notions de conditions sont tout partout, imposant à chaque branche de rester connectée individuellement. Mais sachez ceci, si vous portez des fruits, vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas à vous que ces conditions appliquent. Ce n'est pas vous qui allez être retranchés. Nous avons une promesse de cela, que Jésus affirme clairement en Jean 10, versets 28-29. « Je leur donnerai la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne va les couper. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il ne nous retirera pas de ses mains. Et nous ne pouvons pas nous-mêmes nous retirer, car personne n'est plus grand que le Père. Donc la question, c'est qui alors qui est retranché? C'est qui alors dont le passage parle? Les conditions s'appliquent à qui? On a la réponse par le même auteur en 1 Jean 2,19. Il est écrit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » En d'autres termes, c'est ceux qui sont seulement attachés de manière extérieure à la vigne qui seront retranchés. Parce qu'il n'y avait jamais vraiment eu de vraie vie dans ces branches. Ils ont alors été enlevés. Parce qu'ils n'étaient vraiment pas connectés, enfin. Jésus, donnant cette parabole, il y a un contexte spécifique, il y a un groupe particulier qu'il aurait en tête en donnant cette image. Et c'est bien le peuple d'Israël, l'audience qui entendait cette parabole. Et c'est eux qui appuyaient uniquement sur leur attachement extérieur pour leur appartenance à la vie. Il n'y avait pas vraiment de vrai attachement. Ils n'étaient pas vraiment attachés à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est souvent décrit comme étant la vigne de Dieu. Ésaïe 5, 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est de plantes qu'ils chérissaient. Mais c'est exactement ici où la déclaration initiale de Jésus intervient. Celui qui est le vrai vigne. Il est écrit que Israël est un vigne. Mais Jésus dit qu'il est le vrai vigne. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez connectés à moi. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait une espèce de mélange entre ceux qui sont attachés de manière intérieure et extérieure. Mais seulement qu'ils sont vraiment attachés de manière intérieure à Christ. C'est ça ce qui est important. C'est pas mal d'être connecté de façon extérieure. Mais si c'est que ça, c'est là le problème. Parce que rendu à l'inauguration du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, il y a une séparation qui se fait. Il n'y a plus cet attachement extérieur qui est suffisant. Il y a une séparation des deux. Les branches mortes d'Israël sont retranchées. Les branches rebelles et incrédules sont coupées. Ceux qui sont attachés juste de manière extérieure, mais ceux qui sont attachés de manière intérieure demeurent. Parce qu'ils sont véritablement connectés à Christ. C'est eux qui appuyaient sur leur droit d'aînesse pour leur appartenance à Dieu et non pas par la foi. Comme Jésus indique en parlant à Nicodème, il utilise la même idée. Nous devons être naître de nouveau pour même voir le royaume de Dieu. Il est en train de faire un contraste entre la naissance naturelle, ce serait de manière extérieure, Et la nouvelle naissance qui serait l'attachement intérieur qui se fait par la foi. Et c'est ça l'essence même de l'Évangile. Vous devrez être vraiment connecté et uni à Christ. Sinon, vous allez être retranché, même si vous avez une appartenance à son Église. Mais ce ne sont pas juste des juifs rebelles qui ont été coupés. Mais la même chose se produit aujourd'hui, d'une manière très similaire. Dans notre contexte moderne, c'est quelque chose qui se produit malheureusement régulier. Mais c'est d'être attaché d'une manière nominale. On appelle ça des chrétiens nominaux. Ou autrement dit, ceux qui sont attachés juste en nom. Ceux qui n'ont pas de vrai attachement intérieur. C'est pareil comme les Juifs. C'est juste transporté dans l'Église. La même chose arrive. C'est ceux qui professent la foi, mais ne la possèdent pas. C'est souvent ceux qui ont grandi dans l'Église, ils ont décidé de le joindre pour des raisons sociales, politiques ou autres. Mais ils ne sont pas vraiment convertis, ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Ils vont savoir comment parler, comment agir et tout pour avoir une apparence extérieure. Mais ils ne sont pas connectés de manière intérieure à la vigne. Et Jésus nous a dit que nous pouvons les reconnaître par leurs fruits. Et la réalité, c'est que ceux qui sont connectés comme ça, n'auront pas de fruits. Et je peux te dire tout cela avec confiance parce que moi-même, j'en étais parmi eux. Moi, j'ai grandi dans l'Église. J'ai professé ma foi. J'ai été même baptisé. Je savais comment parler, comment agir pour paraître comme un bon chrétien. Mais c'est ultimement qu'un masque pour cacher le péché qui était en moi. Ultimement, je me trompais moi-même. Donc, ça fut une vraiment pas agréable expérience lorsque j'ai réalisé ça à l'âge de 21 ans. Et j'étais en voie de me marier. Mais Dieu s'est servi de ma future femme pour me la révéler. Il m'a fait grâce pour me sauver, pour me révéler à quel point je n'étais pas vraiment connecté à lui. Parce que je portais aucun vrai fruit. Et en ce qui concerne les branches qui produisent des fruits, il y a toujours un taillage qui doit être fait par le Père. Vous n'êtes pas délivré de le couteau du Seigneur, mais elle vient pour un autre but. Hébreux 12 décrit comment ce taillage se fait. Parce qu'elle est une taillage d'une discipline paternelle. Qu'il fait pas hors d'acte de séparation, mais acte d'amour vers ces branches qui produisent du fruit. Et cela, c'est pour leur bien, pour produire encore plus de fruits. Il purifie son peuple. C'est là le processus de la sanctification que tous les croyants doivent y passer. Au verset 3 de notre texte, Jésus explique comment la purification s'opère. Il a déjà purifié son peuple. C'est ce qu'on appelle la sanctification initiale. Mais lorsque nous sommes justifiés, nous passons de la mort à la vie. Où il y a un processus de purification, de sanctification initiale qui produit en nous. Et par la suite, c'est progressivement fait au travers du restant de nos vies. Et c'est ultimement grâce à cette discipline paternelle qui nous fait. Ça peut être douloureux. Si on est honnête, ce n'est pas vraiment le fun quand on est sanctifié. Il y a une partie d'entre nous qui aime juste un petit peu notre péché. Mais cela doit être coupé. Cela doit être taillé par le Père. Et il nous enlève de tout ce qui nous distrait de notre but de produire des fruits. Il nous enlève les idoles qui sont dans nos vies, les distractions. Jean Calvin disait que le cœur humain est une machine d'idoles. On en produit continuellement et ils doivent être tous coupés, malheureusement. Et il fait ce taillage au moins de deux manières. Et c'est là où c'est réellement d'enlever de ces idoles. Ces idoles pourraient être un travail. Ça pourrait être de l'argent. un char, une relation, ou quoi que ce soit qu'on accorde trop d'importance qui nous distrait de notre Dieu. Ou bien, il peut nous permettre de tomber dans un tel péché. Des péchés qui existent encore dans nos cœurs, que nous gardons en vie, pour que nous-mêmes on l'enlève, que nous-mêmes on le coupe. Et c'est comme ça qu'il fait ce processus de taillage, cette sanctification, parce que c'est essentiel à la vie chrétienne. Peut-être que le Père est en train de vous faire cela. Peut-être qu'il l'a déjà fait et tu pensais que c'était mal, que c'était une mauvaise affaire. Crois cela. Reposez-vous sur cela. Romains 8, 28. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il vous a sanctifié pour votre bien. Même si ça fait mal. Même si ce n'est pas agréable. Et tout cela nous amène à l'aboutissement de cette parabole de Christ. C'est quoi le bien dont je parle tout le long? Le bien qui nous prépare. On est unis à lui pour un but. Il nous nourrit pour un but. Il nous émonde pour un but. Et ce but, c'est que nous soyons transformés pour porter plus de fruits. Et non seulement quelques-uns, pas seulement des petits, mais beaucoup de fruits qui sont grands, qui sont sucrés. Le chrétien qui est bien entretenu et bien nourri ne peut rien faire que cela. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est ça le fruit pour lequel vous avez été désignés. Que nous aimons Dieu et les hommes. Que nous soyons connus même pour cet amour. L'amour est au centre de tout. Dieu lui-même est amour. Et ailleurs, Jésus décrit concrètement comment aimer les uns les autres. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La loi de Dieu en question, c'est compris dans l'Ancien Testament, c'est compris de 600 quelques lois. Et les 10 commandements sont encore un résumé de tout cela. Et comment est-ce que Jésus lui-même résume la loi en Matthieu 22? Aimer l'homme et aimer Dieu. De tous ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. L'amour chrétien, selon la Bible, est réglementé. Ce n'est pas que des simples, des sentiments vers quelqu'un, quoi que ce soit. Mais c'est ultimement une posture de cœur que nous devons avoir, qui s'exprime vers des désirs pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Les chrétiens sont commandés de suivre la loi de Dieu pour notre sanctification, pas pour notre justification, mais ultimement comme règle de vie, pour nous diriger, pour nous guider, pour qu'on puisse glorifier notre Dieu. Ne mélangez pas ça. Ce n'est pas pour vous rendre bien propre devant Dieu qu'on suive la loi, mais c'est hors de l'amour, pour lui rendre gloire. La première table de la loi, commandement 1 à 4, nous dit comment aimer notre Dieu. Le premier des 10 commandements, c'est ne pas avoir d'autre Dieu devant nous. Lui seul est l'objet unique de notre service, de notre amour, de notre louange et de notre adoration. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes mariés à Christ. Cette image est donnée toute partout. Donc, si nous servons d'autres dieux, si nous avons d'autres idoles, ce serait un adultère spirituel que nous sommes en train de commettre. On est unis à une seule. Et on n'a pas le droit d'être unis à d'autres. Car c'est comme le troisième commandement. Dieu est un Dieu jaloux, qui exige une attention exclusive. Ce qui nous amène à la deuxième table, la loi 5 à 10, nous dit comment aimer les hommes. Nous ne devons pas les tuer, voler ou mentir aux autres, mais nous sommes appelés à les aimer, à les honorer et à les respecter. Eux et leur bien. Et de les traiter en tant que des images créées dans l'image de Dieu. Tout comme la parabole du bon samaritain. Ce n'est pas un appel facile. Mais vous avez été créés par Christ et transformés pour cela. L'Évangile est suffisamment puissant pour nous sauver. Elle est également suffisamment puissante pour nous transformer. Pour ultimement qu'on soit des pièces d'or à la gloire de notre Dieu. Préparées pour des bonnes œuvres qui édifient nos frères et nos sœurs. Et qui appuient également notre profession dans l'Évangile. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus est le vrai cep. Nous sommes de ses branches. Il s'en va, mais il ne nous abandonne pas. Il demeure en nous et nous en lui. Il nous nourrit, il nous taille, il nous fortifie par sa présence et par sa parole. Et avec ses paroles, il nous rappelle comment nous devons agir face à des ennemis qui nous persécutent. Matthieu 5:44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien de ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Prions. Cher Père Céleste, ta parole est puissante pour nous transformer. Ta parole est puissante pour nous sanctifier. Sanctifie-nous par ta parole, afin que nous soyons propres à porter des fruits d'amour, afin que nous aimons les uns les autres comme tu nous as aimés, afin d'être connus pour notre amour.